filles sont promptes à désirer, même si c'est aussi entravé par les phénomènes de culpabilité et de honte. Admettre ça, c'est quand même pas facile. Moi, je pense que ce soit difficile. J'en ai connu des victimes depuis que je pratique le droit, là, à des centaines. Et d'ailleurs, les deux recours collectifs, les deux personnes qui sont initiées le recours collectif, Pierre Bolduc et Gaëtan, sont des clients. J'ai préféré à Montréal aller en France, qui est un spécialiste des recours collectifs. Moi, je coordonne ça de Québec. Mais il y en a beaucoup plus. Et ce qui est important, c'est les gens dénoncent. Nous autres, on fait ça de façon confidentielle. S'il y a quelqu'un qui est victime de prêts depuis 1940, c'est important de se rapporter à notre bureau pour qu'on puisse regarder la situation avec eux. On va faire ça gratuitement. Regarder la situation avec eux, évaluer les cas, essayer de voir qui aurait été l'agresseur. Mais même si c'est flou, même si c'est pas clair, même si on sait que ça fait longtemps et que le souvenir est souvent entravé par des problèmes dépressifs ou des problèmes de honte, on est à les aider puis à les intégrer au recours collectif parce que c'est le temps. Là. Plus on a de monde, plus le recours va aboutir, plus on va avoir des résultats.
OK. Je vais vous laisser, Maître Bellemare, vous rapprocher peut-être d'un endroit où vous allez avoir plus de réception pour ce qui est des prochaines secondes parce que ça coupe une fois de temps en temps. Mais ce que je me pose comme question, Maître Bellemare, c'est que dans ce cas-ci, on parle bien entendu de recours collectif, oui, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour les prêtres et les archevêques qui sont encore en vie, qui sont encore en fonction, de se faire poursuivre aux criminels?
C'est toujours possible, mais aux criminels, c'est une preuve plus. Hein, ça prend une preuve de hors de tout doute raisonnable. Et le procureur général ou le DPCP qui peut déposer des accusations. Mais au civil, ça prend une preuve de probabilité, une preuve 50% plus 1. Et depuis 2020, il n'y a pas de délai. Autrefois, il y avait un délai qui était de 3 à 30 ans pour les victimes, mais depuis 2020, le gouvernement a aboli le délai de prescription qu'on appelle de sorte qu'on poursuive sans limite de temps. Quiconque nous a agressé sexuellement, c'est pour ça qu'on a vu des règlements hors cours dans les dossiers où il y avait des agressions dans les années 50 et 60. Alors, tout n'est pas perdu. Il n'y a pas de délai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de preuve. Ça ne veut pas dire que c'est facile de découvrir ce dont on a été victime. C'est quand même le prouver. Mais c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas la contrainte de temps qu'on avait là jusqu'en 2020, c'est maintenant levé.
OK. Et dans le cas où, bon, il y a des prêtres qui sont décédés, là, je prends le cas de Clément Fecteau, lui, il est décédé. Comment on fait pour faire un procès puis s'assurer que la victime en rajoute pas, Maître Bellemare? On y va vraiment sur la parole de la victime?
On va y aller sur la parole de la victime. Il y a un contexte, hein, quand on faut que tu sois capable de répondre l'endroit où c'est arrivé, comment ça s'est produit, quel genre d'agression sexuelle tu as subi, la mise en situation, le moment où ça s'est produit, quel âge tu avais, dans quel établissement. Il y a moyen de reconstituer les faits. C'est certain que si le prêtre n'est pas bon, ça peut peut-être venir compliquer un petit peu l'affaire. Et vous, c'est pas sûr que vous allez dire parce que vous affirmez avoir été agressé sexuellement. C'est pas automatique. Sauf que c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que c'est compliqué, et on risque de ne pas être plus qu'il ne faut pas y aller. Parce que des victimes de prêtres, c'est souvent des gens qui ont été victimes alors qu'ils étaient enfants. On parle de jeunes de 6 à 15 ans à peu près. Ça s'est produit à l'époque où les gens étaient beaucoup plus jeunes, mais les souvenirs sont généralement assez précis. Je serais sûr que ce genre d'agression-là laisse des traces chez les individus et le souvenir est quand même assez vivace, normalement. Les gens sont capables de nous en parler de façon assez précise. Il y a eu des cas, des agressions qui sont survenues dans les années 50. Les gens se souvenaient exactement de quel prêtre les avait agressés, à quel endroit, quel contexte. Des fois, c'était des parties d'or qui étaient organisées dans un collège. Des fois, c'était des pensionnats. Des fois, c'était en faisant la vaisselle. Des fois, c'était dans le bureau du prêtre. Des fois, c'était dans le gymnase. Alors, tu serais assez surpris. Les gens sont assez précis quant aux souvenirs. Maintenant, évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, mais tout est une question de contexte. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre du recours collectif, on évalue chaque situation. On est en mesure de vérifier si la personne est crédible, si le dossier est capable de passer la rampe et qu'on peut l'intégrer dans le recours collectif.
OK. Donc, le recours collectif, ça vise l'ensemble des présumées agressions qui ont été commises par des personnes placées sous l'autorité du diocèse depuis 1940. Est-ce que le diocèse de Québec est ouvert? Est-ce qu'il y a des discussions où on va aller directement en procès là, en 2023?
Bien, le recours collectif a été... La procédure a été déposée en 2020, dès que le délai de prescription a été enlevé dans le Code civil. Les procédures sont tombées, donc une action pourrait être autorisée à exercer une action collective contre le diocèse de Québec pour toute victime depuis 1940. Ça a été déposé à l'été 2020. Ça a été autorisé en mai 2022 par le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure qui a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments dans le dossier, qu'il y avait un groupe qui était assez important pour qu'on puisse exercer une action collective. Donc, l'action est déposée. Et là, actuellement, il y a des pourparlers. Il y a des rencontres parce qu'il y a 18 recours collectifs au total qui sont actuellement pendants au Québec. Il y en a un, par exemple, en Mauricie, contre le diocèse de Trois-Rivières, qui est parrainé par Dominique Moret, là, qui est un journaliste, un animateur connu à Québec. Et à Trois-Rivières, il y a 18 recours au total et les recours sont actuellement regroupés. Alors, la Cour veut en venir à des conclusions qui vont toucher le plus de cas possible, parce que ce sont des recours qui sont complexes, qui sont lourds, qui sont pesants, qui touchent des centaines de personnes et des centaines d'agresseurs aussi, partout au Québec. Alors, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu devant le tribunal. On appelle ça des espèces de conférences de gestion, de règlement à l'amiable. On essaie d'en arriver à une entente au mois de décembre. Il y en aura d'autres. Il y en a eu au mois de novembre, puis il y en aura d'autres au mois de janvier. Alors, les affaires vont bien, puis moi, je pense que le clergé va éventuellement se mettre à table pour régler ces dossiers-là, parce que ils ont aussi un travail à faire. Je pense que le clergé est conscient du fait qu'il y a eu des agresseurs sexuels dans son sein. Il y a des mesures de protection de ces agresseurs-là qui ont été mises en place au fil des années. On les déplaçait d'une paroisse à l'autre où ils pouvaient continuer à sévir, à agresser d'autres enfants. C'est pour ça que le recours est intenté contre le diocèse. Parce que le diocèse est, si tu veux, l'institution ou l'organisme qui parraine l'ensemble des activités ecclésiastiques, et les prêtres qui agissaient étaient à l'époque des prêtres qui faisaient partie du diocèse de Québec. Donc, le diocèse a quand même, au niveau légal, une responsabilité importante dans les cas d'agression.
C'est incroyable de voir à quel point il y a eu autant d'agressions, tu sais, des années 40 jusqu'aux années 2000, de voir que les prêtres s'en donnaient en cœur joie avec des enfants. Tu sais, Maître Bellemare, je pense pas que tous les prêtres étaient des pédophiles, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a des prêtres qui mentionnent qu'ils n'étaient pas au courant d'absolument rien de ce qui se passait, alors que d'autres voyaient un peu ce qui se passait puis laissaient ça aller, puis ça, ils se protégeaient entre eux. On changeait les prêtres de paroisse quand il y avait des soupçons. Tu sais, ces gens-là, on va se le dire, là, il y avait de la complicité. Là. Puis c'était pas de la complicité là, aveuglement volontaire. C'était vraiment de la complicité. C'est on t'aime bien, on sait que tu as fait des affaires pas correctes, on va t'aider, on va t'envoyer ailleurs.
Là. Oui, puis c'est pas dit que les prêtres agresseurs avaient pas aussi un rôle important à jouer au sein de l'Église. Là. C'est pas parce qu'il y avait une perversion ou qu'il y avait une déviance que ces prêtres-là n'ont pas non plus rendu service à certains moments. Là. Un prêtre pouvait être excellent professeur. On sait que le clergé agissait à plusieurs niveaux à l'époque, dans les OTJ, dans les camps de vacances, dans les sports communautaires, dans les collèges, dans l'enseignement, dans la santé. L'Église était, jusqu'aux années 60 au Québec, l'Église était omniprésente. Les prêtres étaient partout et c'est eux qui agissaient auprès des jeunes. Alors, moi, je suis pas en train de dire qu'un prêtre abuseur qui aurait sévi auprès de dizaines et de dizaines de victimes n'a pas fait ailleurs un certain travail favorable. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été capable d'enseigner correctement des jeunes ou qu'il n'a pas été capable de soigner des victimes ou d'être aumônier dans des prisons ou dans des institutions publiques. Mais s'il y avait un travers et s'il agressait des enfants, il faut qu'il paye pour ça et il faut qu'il y ait des conséquences. Alors, c'est ça. Puis c'est pas, il n'y a pas question ici de dire que le clergé n'a rien fait au Québec. Le clergé a fait des choses extrêmement importantes aussi pendant des siècles, des générations. Le clergé a tenu à bout de bras un réseau d'éducation qui était assez mal en point, qui n'aurait jamais fonctionné sans eux. Mais ceci étant dit, en reconnaissant les bonnes choses qui ont été faites, il faut quand même que quelqu'un paye pour les agressions sexuelles qui ont été commises par centaines au fil du temps. Et c'est, on en est là, nous, actuellement.
Okay. C'est des montants qui peuvent ressembler à quoi, Maître Bellemare, pour les victimes du diocèse de Québec?
Les montants qu'on évalue sont entre 200 et 600 000 actuellement, dépendant des victimes.
Par victime?
Il peut y avoir eu des différences dans le type d'agression. Il y a des agressions qui ont duré plus longtemps. Il y en a qui ont été plus sévères que d'autres. Alors, il y a quand même une certaine variable, mais considère que c'est à peu près 600 000 qui est prévu là, dans la procédure à l'heure actuelle. Et si éventuellement il y a un règlement, mais il y aura un dosage qui sera fait selon le type d'agression qui sera fait, parce que le recours collectif n'empêche pas qu'il puisse y avoir une certaine modulation en fonction des circonstances de chaque cas, même si on parle d'agression sexuelle, il y a quand même des lieux communs, il y a quand même une définition commune pour l'ensemble des victimes. On comprend qu'il puisse y avoir au niveau des séquelles et des dommages psychologiques et moraux des variantes d'un cas à l'autre.
Et est-ce que ces gens-là qui embarquent dans le recours collectif, là, est-ce qu'ils peuvent faire des demandes à l'IVAC? Ces gens-là sont quand même assez âgés, mais est-ce qu'ils peuvent quand même faire des demandes à l'IVAC? Est-ce que ça pourrait être susceptible d'être accepté?
Oui, ils peuvent faire des demandes à l'IVAC parce que ce sont des agressions sexuelles.
Ouais.
Il y en a qui en ont fait déjà. Le fait d'avoir recours à l'IVAC n'empêche pas d'avoir un recours civil. Faut pas oublier ça, là. Les gens qui sont victimes d'accidents d'auto ne peuvent pas poursuivre l'auteur de l'accident ou la personne responsable de l'accident, mais en matière d'acte criminel, on peut le faire. Alors, si vous êtes victime d'une agression dans un bar ou sur le trottoir, quelqu'un qui vous saute dessus, ou vous êtes victime d'une invasion de domicile ou d'une agression sexuelle, vous pouvez réclamer à IVAC et quand même, vous conservez votre droit de poursuivre la personne qui vous a agressé criminellement. Alors, les deux sont pas incompatibles, simplement que quand le juge détermine le montant auquel vous avez droit pour l'agression et qu'il condamne l'agresseur en conséquence, il doit soustraire le montant que vous avez reçu d'IVAC. Mais les deux sont possibles et il y a beaucoup de victimes qui décident d'aller quand même au civil parce que IVAC, on le sait, paye des sommes relativement faibles. C'est pas des montants qui sont élevés. C'est un minimum. Mais des fois, au civil, devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure ou dans le cadre d'un recours collectif, on peut obtenir davantage. Alors, c'est une option qui se présente pour toutes les victimes d'actes criminels au Québec.
Parce que c'est
ça, pas juste aujourd'hui, mais depuis 1972, ouais, que la loi de l'IVAC existe, ça a toujours été le cas.
Parce que, Maître Bellemare, ces agressions-là, les souvenirs de ces agressions-là peuvent avoir été en dormance pendant des années et des années et des années. Là, on entend parler, Bellemare, il parle à la radio, agression sexuelle, recours collectif, je peux embarquer là-dedans. Juste le fait de commencer à entamer les démarches pour que ces gens-là puissent un jour payer pour les gestes qu'ils ont commis, ça peut raviver justement ces souvenirs-là qui étaient en dormance, qu'on avait comme tendance à pas vouloir se rappeler.
Oui, oui, c'est ça. Puis ça dépend des séquelles. Un stress post-traumatique, par exemple, c'est une agression brutale. Ça peut donner des stress post-traumatiques qui fait que à chaque fois qu'on on fait des cauchemars, on a des flashbacks de ça. Puis à chaque fois qu'on est confronté à des images ou à des situations qui nous rappellent l'agression, mais ça revit dans notre tête un peu comme si c'était arrivé hier. Alors, c'est des vilaines problématiques psychologiques qui peuvent réapparaître n'importe quand. Et des fois, ça peut être, comme tu le dis, en dormance pendant des années. Et puis, à un moment donné, ça se réveille à l'occasion d'une odeur. On est confronté à une image. On regarde un film à TV, puis ça nous rappelle l'épisode. Et à ce moment-là, les symptômes réapparaissent des fois plus forts encore. Alors, il y a toutes sortes de problèmes. Les séquelles psychologiques résultant d'un acte criminel, c'est quand même assez compliqué. Et de plus en plus, les psychiatres s'y intéressent. Mais on est capable de mesurer de plus en plus, mais ça demeure quand même complexe.
Maître Bellemare, le major général Danny Fortin a été acquitté aujourd'hui dans son procès pour agression sexuelle. Le juge a décidé que le témoignage de la plaignante n'avait pas nécessairement réussi à prouver l'identité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Et ça a été rendu cette décision-là au palais de justice de Gatineau. Et le juge s'est dit convaincu que la femme a vraiment subi une agression sexuelle entre janvier et avril 1988, mais en raison raison du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage dans le dortoir puis au moment de l'agression et le stress vécu par la victime, ben, ça aurait peut-être pu l'amener à se tromper sur l'identité réelle de l'agresseur. Et le juge aussi a relevé des contradictions entre la version des faits qui avait été livrée par l'accusatrice à la police et lorsqu'elle était en contre-interrogatoire par la défense. Le juge a relevé des contradictions. Et là, ben, Major Danny Fortin, qui est sorti de la salle, qui a accordé une entrevue au journaliste, lui, il a mentionné que sa vie a été scrappée là, par ces accusations-là. C'est lui qui était responsable de la campagne de vaccination au Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il était responsable de la campagne de vaccination. Et dès que ces accusations-là sont sorties, bien, les Forces armées canadiennes l'ont mis dehors. La Coalition Avenir Québec l'a mis dehors. Le gars a été identifié comme étant un agresseur. Finalement, procès. Finalement, doute raisonnable. Et aujourd'hui, ben, l'homme est libre, puis on prétend qu'il n'a absolument jamais rien fait. Je veux dire, pour l'individu, là, advenant le cas où il n'a rien fait, ça doit être triste à vivre.
Oui, oui, mais c'est le lot de tous ceux qui sont acquittés d'une accusation de nature criminelle. Il ne faut pas oublier que le système, si on veut qu'il fonctionne, là, il ne peut pas permettre à tout le monde qui est acquitté de poursuivre l'État parce qu'il y a un acquittement. On se comprend, là? Si le DPCP considère qu'il a une certitude morale d'obtenir une condamnation, il a l'opportunité de déposer des accusations, mais on sait bien qu'au cours du procès, il peut y avoir des témoignages qui sont un peu moins solides, il peut y avoir des questions qui sont soulevées, il peut y avoir des éléments de défense qu'on n'avait pas prévus au départ. Il y a une question de crédibilité aussi. Qui dit la vérité? Qui croire? Est-ce qu'il y a des failles dans le témoignage de la victime? Tout ça est difficile à évaluer au départ. On ne connaît pas l'issue d'un procès criminel au moment où les accusations sont déposées. Mais si les déclarations qui sont faites à la police, les rencontres qui ont eu lieu avec l'avocat de la Couronne, la préparation de la preuve permet au DPCP de croire qu'il va obtenir une condamnation, et que lui, il pense qu'il va obtenir une condamnation, mais il a le droit de poursuivre. Et si, au bout de la ligne, il y a un acquittement, ça ne permet pas à personne acquittée de poursuivre le DPCP en dommage. C'est très, très rare qu'une personne acquittée au criminel va pouvoir obtenir un dédommagement de la part du gouvernement du Québec ou du procureur général ou du ministère de la Justice. C'est seulement dans les cas où il y aurait eu malversation, malveillance ou une erreur grossière de la part du procureur de la Couronne, à ce moment-là, il pourrait y avoir le célèbre Zébenou dans l'affaire France-Alain, là, qui avait été acquitté, qui a eu 3 millions, je pense, de dommages-intérêts.
Ouais.
Alors, dans certains cas très rares, il y aura une possibilité pour une personne d'acquitter d'obtenir des dommages. Mais la plupart du temps, ces gens-là vont devoir vivre avec toutes les conséquences, vivre aussi malgré l'acquittement, avec les regards insistants des gens, les perceptions de la population qui vont toujours... Il y a toujours des gens qui vont continuer de dire « Ah, il a été acquitté, mais c'est parce qu'il y a un bon avocat, tu sais, on sait bien qu'il est coupable, etc. » Il y aura toujours des gens pour continuer de penser que cette personne-là est coupable d'agression sexuelle. Alors, c'est extrêmement pénible, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un système qui est fait comme ça, parce que si tous les gens acquittés pouvaient poursuivre pour les dommages résultant de l'accusation, ben là, le système ne fonctionnerait plus, comprends-tu? Puis il y aurait, de la part du DPCP, une paralysie totale parce qu'ils hésiteraient à déposer des accusations, sachant qu'en cas d'acquittement, il y aurait une condamnation. On ne peut pas penser que ce système-là pourrait fonctionner si toutes les victimes acquittées, toutes les accusés acquittés pouvaient poursuivre. C'est impossible.
Ah, je comprends, mais on prend n'importe quel gars qui est en position dans une entreprise ou, je sais pas, moi, c'est un politicien. Je veux dire, quand t'es faussement accusé de quelque chose, de un, tu perds tout. Ta femme sac son camp. Tes enfants doutent de toi. Ils savent pas trop ce qui s'est passé. Les amis de tes enfants, les amis de ta femme, tout le monde te déclare pratiquement coupable au départ parce que tu perds ta job. Dans son cas, lui, perdu sa job parce qu'il était responsable de la campagne de vaccination, perdu sa job dans les forces armées canadiennes. S'en va à procès, oups, finalement, il y a eu erreur sur la personne. Tu sais, faudrait peut-être réparer ce qu'on a brisé dans son cas. Lui, la confiance envers le système, il ne doit plus l'avoir bien. Sa vie a été scrappée en l'espace de 2 ans.
Oui, tu as raison. Je comprends ça. Je comprends ça, mais je t'explique juste que si lui, il y a un acquittement, mais lui est acquitté, mais il y en a plein qui sont acquittés. Là. Des acquittements, il y en a partout. Là.
Oui, oui, mais je veux dire, ça a moins d'impact quand, je sais pas, moi, tu es un spécialiste, tu vends des raquettes de ping-pong, puis il n'y a personne qui te connaît. Lui, dans son cas, lui, son visage était connu à la grandeur du Québec. Là.
C'est sûr. Et ça n'a pas d'importance par rapport au principe de responsabilité. Comme je te dis, la seule façon d'obtenir une condamnation, un dommage d'intérêt, puis on va le voir dans l'affaire de Jonathan Betté, là, dont les accusations ont été cassées. On en a parlé il y a quelques semaines. Jonathan Betté, c'est le gars qui a été soupçonné, le principal suspect dans l'enlèvement et l'assassinat de Cédrica Provencher, qui avait été accusé au criminel pour avoir détenu du matériel pornographique juvénile. Les accusations ont été cassées. Il poursuit la couronne pour 10 millions, je pense. On va le voir, qu'est-ce qui va arriver avec ce dossier-là, où il y aura vraisemblablement un procès parce que le DPCP ne veut pas donner une scène. Mais c'est simplement pour te dire que le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait une faute, une méga faute de la part du DPCP, de l'aveuglement volontaire, quasiment une fraude, pour pouvoir justifier des dommages à payer auprès d'une personne qui est acquittée au criminel. Il ne faut pas oublier non plus que c'est pas parce que tu es acquitté au criminel que tu ne seras pas condamné au civil. Là.
Ah.
Parce que tu peux être acquitté au criminel, tu peux être condamné au civil. Je ne sais pas dans ce cas-ci si la victime a pris des procédures là, civiles en responsabilité.
Ouais, c'est pas encore déterminé. Puis la couronne a mentionné qu'elle allait prendre quelques jours là, pour décider à savoir si on allait porter la cause en appel.
Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'être accusé au criminel, c'est une croix immense à porter. Le problème, c'est que dès que les accusations sont déposées, l'affaire devient publique. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai toujours trouvé ça curieux, puis je me suis toujours dit pourquoi est-ce que lorsqu'une accusation est déposée contre quelqu'un puis que la personne ne plaide pas coupable, pourquoi c'est public?
Ah, oui, c'est un très bon
point. Pourquoi on n'attend pas que le jugement... Il pourrait y avoir un huis clos. Il y en a pour les enfants, quand c'est des enfants qui sont impliqués, pour protéger l'anonymat, parce que des fois, tu es obligé de protéger l'anonymat du père ou de la mère parce que c'est l'enfant qui est agressé, exemple, par son père ou sa mère. À ce moment-là, personne n'est connu parce que on veut éviter que l'enfant soit identifié à travers son père, qui, lui, est adulte, qui pourrait l'être, mais si tu identifies le père, tu identifies le fils. Alors, personne n'est identifié dans ces cas-là. Mais on pourrait prévoir que quand une personne est accusée au criminel, son nom n'est pas connu. Il faudrait changer la loi. Son nom n'est pas connu tant qu'il n'y a pas un verdict. Et si un acquittement, son nom n'est pas plus connu, à ce moment-là, il serait beaucoup moins accablé par la perception publique. Mais s'il est condamné, à ce moment-là, son nom sortirait. Ça pourrait exister.
Ouais.
Mais au nom du principe suivant lequel la justice doit être publique et transparente, dès que les accusations sont déposées, ça devient public, mais avant, ça ne l'est pas. T'sais, si tu es sous enquête, même si l'enquête dure des années, si tu es sous enquête, c'est pas public. Mais dès que les accusations sont déposées, que tu es accusé formellement d'un crime, à ce moment-là, ton nom sort, puis les journalistes s'emparent de ça, puis bien souvent, le procès public va se faire beaucoup plus dans les médias que devant le tribunal. Et effectivement, ça peut avoir des dommages. Pas nécessairement parce que le processus criminel n'est pas juste, parce que, médiatiquement parlant, tu fais la nouvelle pendant des mois, des années.
Oui, puis il y a un auditeur qui me mentionne, bonsoir Yann, bonsoir Maître Bellement. Il faut absolument que ce soit public parce que quelquefois, on voit des victimes se rajouter au dossier et cet individu-là a entièrement raison. Le fait que ça peut être public, le visage est publié dans tous les médias, il y a des victimes qui s'ajoutent, mais ce serait la même chose dans le cas où, quand le procès est terminé, l'individu est déclaré coupable, ben son visage est placardé un peu partout dans les médias. Là.
Oui, oui, absolument. C'est vrai. Il a raison. Il a tout à fait raison, ce monsieur-là, parce que ça permet à d'autres victimes de s'ajouter, effectivement, surtout dans les cas d'agression sexuelle auprès des enfants. Souvent, tu ne bougeras pas, mais si tu apprends dans le journal que ton ancien moniteur de natation a été accusé, bien, peut-être bien que ça va te pousser à faire une déclaration à ce moment-là, puis à dénoncer, puis à devenir une partie au procès en ce sens qu'il va y avoir des accusations spécifiques qui vont être déposées pour l'agression dont tu as été victime. C'est un fait. M. Weinstein, là, le producteur de cinéma aux États-Unis, là, si tu as vu le film She Said ou Elodie là, sur les écrans actuellement, bien, au début, il n'y a pas une fille qui voulait porter plainte. Puis éventuellement, il y en a 82 qui se sont jointes à des procédures. Puis il a été condamné, je pense, à 23 ans de prison. Alors, ça a commencé par une dénonciation, une accusation publique. À ce moment-là, il y a d'autres victimes qui ont porté plainte et dont les plaintes ont été reçues. Alors, c'est un bon point. Mais en même temps, c'est sûr que tout ça est fait en fonction d'une justice publique, en fonction de l'intérêt des victimes. Bien, c'est certain que si tu es acquitté d'un crime odieux comme une agression sexuelle, à ce moment-là, si tu es acquitté, ben tu vas avoir payé cher de ta réputation, puis probablement pour le reste de ta vie. Puis comme je le disais tantôt, ben il y a toujours des gens qui vont douter de toi.
Exactement. Vous vouliez nous parler de perte de permis SAAQ?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes âgées ou des gens qui sont porteurs de troubles neurocognitifs qui sont inquiets actuellement. Puis j'ai compris parce que la SAC a modifié ses procédures au niveau des permis de conduire. Et dès que tu es porteur d'un trouble neurocognitif, le permis va être suspendu automatiquement. Ce qui ne t'empêche pas de contester. Puis à ce moment-là, ils vont te faire passer une évaluation sur la route en ergothérapie puis ils vont voir si tu es habile à conduire le véhicule automobile ou pas. Alors, c'est quoi un trouble neurocognitif? C'est un problème qui touche sur les gens, par exemple, qui sont porteurs d'Alzheimer ou les gens qui commencent à présenter des troubles de démence ou des tumeurs au cerveau qui donnent des ou un traumatisme crânien qui a été subi par la victime ou par un conducteur. La personne commence à présenter des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire la concentration est moins bonne, la mémoire est moins bonne, l'attention est moins bonne et il y a une fatigabilité importante qui s'ajoute avec des troubles, des maux de tête, des symptômes de ce type-là. Alors, moi, je suis d'accord avec le fait que la SAC suspende le permis dans ces cas-là parce que ça mérite une évaluation un peu plus poussée. Puis en attendant, on peut pas laisser le monde se promener sur le chemin avec des véhicules automobiles et risquer de causer des accidents. C'est sûr que c'est sévère. Puis si j'ai 72 ans et que j'ai un diagnostic de troubles neurocognitifs, la nouvelle procédure va faire que je vais être suspendu pendant un certain temps, mais je pense que dans l'intérêt de la sécurité publique, on n'a pas le choix que de faire ça.
Ouais. Bien, ça, j'ai souvent eu cette discussion-là en bourse avec des individus, puis ce qu'on se rend compte, c'est à partir du moment où on retire le permis de quelqu'un qui habite dans un milieu type campagne, bien, on lui retire son autonomie et on lui retire sa fierté. Des fois, ce que les médecins mentionnent, c'est que le monsieur va tout simplement se laisser aller. T'sais. Donc, il va mourir dans les prochains mois, prochaines années, là, mais ça ne sera pas un 10 ans ou un 20 ans. Le monsieur va rester à la maison puis il va mourir de tristesse. C'est la raison pour laquelle certains médecins font abstraction du fait que l'individu qui est devant eux file pas tant. Il leur enlève pas le permis. En ville, c'est un peu plus facile de se mouvoir. T'es taxi, Uber, la famille est beaucoup plus proche en ville normalement, proche du travail aussi. Donc, aider papa, c'est un peu plus facile. En campagne, je comprenais l'hésitation des médecins à enlever le permis de conduire de papa.
Oui, c'est ça. Mais t'as raison. Puis là, avec les problématiques qu'on a en santé mentale au Québec, où on sait très bien que c'est difficile d'obtenir des services, l'encadrement psychologique, qu'on peut importe l'âge, peu importe le problème qu'on présente, mais les gens qui ont des troubles neurocognitifs font partie de cette problématique-là. Et on sait très bien que le réseau de la santé au Québec, malgré les milliards qu'il nous coûte, on n'a pas les ressources pour s'occuper de ces gens-là. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement, tu as raison, la suspension du permis de conduire, ça peut avoir un effet dramatique chez la personne qui va éventuellement s'abandonner puis se laisser aller parce que il y a pas de personne qui va soutenir cette personne-là, qui va la transporter, qui va l'accompagner dans son deuil. Parce que un permis de conduire, c'est comme c'est considéré par plusieurs comme un droit fondamental, se déplacer, se transporter, accéder à des services en se déplaçant, surtout dans les régions où il n'y a pas de services de transport en commun, où il n'y a pas de facilité de transport. Bien, ça peut avoir un effet bœuf sur la personne et on n'a pas prévu de ressources. La SAC, elle décide de s'occuper de sécurité routière, mais l'ensemble du réseau n'est pas organisé pour accueillir ces gens-là. Et il n'y a rien qui nous dit que des gens dont les permis vont être suspendus vont avoir une ressource sociale qui va pouvoir, ou psychologique, qui va pouvoir s'occuper de faire le transfert entre le statut de conducteur et le statut de non-conducteur. Alors, il y a une problématique certainement qui va se développer autour de ces gens-là. Et bien sûr qu'on va avoir atteint peut-être un objectif de sécurité routière. En même temps, on va créer un autre problème important au niveau de la santé mentale.
Sujet qui va faire jaser dans les prochains mois, Maître Bellemare, on revient avec une nouvelle mouture du projet de loi sur l'aide médicale à mourir. C'est la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger, qui va déposer en tout début d'année prochaine, là, en 2023, la nouvelle mouture du projet de loi. Puis ce qu'on veut, c'est élargir l'aide médicale à mourir. Puis elle va prendre le relais, en fait, de Christian Dubé, qui avait essayé de faire la même chose, vous vous souvenez, en juin dernier?
Oui.
Il voulait faire adopter le projet de loi, je pense que c'était le projet de loi 38, puis ça pouvait permettre aux gens qui étaient atteints d'Alzheimer de formuler une demande anticipée, parce que pour faire la demande de l'aide médicale à mourir, on doit donner notre consentement juste et éclairé. Ce qui fait en sorte que quand on avait l'Alzheimer, puis on était en fin de vie, on était un peu mêlé, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas donner un consentement éclairé. Là.
Donc, on pourrait le donner d'avance.
Oui, formuler une demande anticipée, ce que je trouve tout à fait formidable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Canada anglais. Je n'ai pas l'impression que les médias québécois ont repris cette nouvelle-là. Mais dans le Canada anglais, la compagnie Simons, qui est à Québec, là, Peter Simons et compagnie, ils font un méchant tour de coffre de char dans l'Ouest canadien parce qu'il y a une publicité qui parle de l'aide médicale à mourir puis qui vante un peu l'aide médicale à mourir. Et dans l'Ouest canadien, je ne sais pas si vous y avez récemment, souvent été, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un peu plus croyant. Hein? Ils sont un peu plus chrétiens qu'au Québec, dans l'Ouest canadien. Et là, ça a fait un tollé en disant que la compagnie Simons encourage l'aide médicale à mourir, alors que peut-être que c'était pas nécessairement ça le but au départ. Là. Mais l'aide médicale à mourir, il y en a qui sont contre ça, mais en même temps, on abrège les souffrances des animaux. Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour notre propre vie quand on sait très bien que la finalité, ça va être souffrant comme pas possible?
Ouais, je pense qu'il y a un consensus très, très large sur l'aide médicale à mourir au Québec, probablement plus qu'ailleurs au Canada, parce qu'ils citent la droite religieuse est pas mal moins puissante que dans l'Ouest. Mais il reste que on ne change pas le concept. Là. Ce que la ministre Bélanger va apporter comme nouveauté, ça ne change pas le concept. Le concept, c'est simple, c'est qu'on peut consentir à l'aide médicale à mourir si on est porteur d'une maladie terminale, d'une maladie qui n'est pas susceptible de disparaître, qui est susceptible de s'aggraver, de dégénérer et d'entraîner la mort. Alors, c'est assez simple. Mais effectivement, la question du consentement, si tu as une personne qui est en phase avancée d'Alzheimer, la personne ne se souvient pas de son nom, elle ne peut pas identifier ses proches, n'est pas capable de diriger ses actions, de se déplacer normalement, être sous haute surveillance continuelle, dans des centres adaptés. Alors, comment veux-tu que cette personne-là puisse offrir un consentement valide pour mettre fin à ses jours, alors qu'elle n'est même pas capable de livrer un consentement valide pour acheter une auto ou pour acheter une TV? Alors, c'est normal qu'on puisse prévoir des mécanismes qui vont permettre de donner le consentement anticipé, peut-être avant que la maladie soit diagnostiquée ou dès qu'elle l'est à ses premiers stades. Puis si effectivement le neurologue ou le médecin est capable de confirmer que la maladie est bien installée, vous avez l'Alzheimer, ça va progresser, puis vous n'avez pour tant de temps à vivre, bien, à ce moment-là qu'on puisse, même si la personne ne se qualifie pas dans l'immédiat, elle pourrait se qualifier éventuellement et son consentement peut être donné par anticipation. On ne change pas les règles, on ne change pas les catégories, mais on établit une mécanique qui va permettre d'y accéder de façon plus réaliste. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Il y a une fonctionnaire fédérale qui recevait des militaires dans son bureau, des militaires qui étaient atteints, qui avaient des problèmes de santé mentale. Et elle proposait aux militaires, ben, est-ce que vous désiriez peut-être l'aide médicale à mourir? Et cette fonctionnaire-là a été rencontrée parce que c'est, tu sais, il y a eu du débordement aussi, là. Mais est-ce qu'on ajoute les enfants, Maître Bellemare, des enfants qui ont des difficultés puis qu'on sait qu'ils vont décéder dans les prochains mois, les prochaines années et qui souffrent terriblement? Tu sais, il y a toutes ces questions-là que je me pose, moi, en tant qu'individu, parce que je comprends que, bon, tout ce débat-là va se ramasser à l'Assemblée nationale, puis à un moment donné, on va accepter le projet, mais je me pose des questions, tu sais, par rapport aux enfants, on va faire quoi? Tu sais, un ex-militaire qui est atteint d'une maladie mentale, puis qui sait qu'il va avoir ça jusqu'à la fin de ses jours, qui souffre terriblement, est-ce qu'on va lui donner accès à ça? Alors que lui, c'est peut-être la crise dans laquelle il est, c'est peut-être passager, à un moment donné, il va peut-être accepter de vivre avec sa maladie mentale. Des fois, il y a des bons questionnements là, par rapport à ça. Moi, c'est sûr que si je suis malade puis je sais que je suis en phase terminale, ça ne me tentera pas de souffrir jusqu'à la fin, Maître Bellemare. Je vais dire, amenez-moi les papiers, puis lorsque ce sera le temps, vous me ferez l'euthanasie. Parce que c'est comme ça. Nous autres, on met un beau mot, là, l'aide médicale à mourir, mais le vrai mot, c'est euthanasie. Il n'y a pas son pendant en anglais. L'euthanasia, c'est ça. C'est l'euthanasie,
en fait. Mais c'est ça. Dans le cas des maladies physiques, comme les maladies neurologiques, Alzheimer, tout ça, ou la dystrophie musculaire, il y a des stades, mais ça, c'est possible de l'évaluer physiquement, puis on n'a pas de remède à ça. Mais on peut se poser la même question pour les maladies physiques, parce qu'il y a des maladies, il y a 30 ans, qui étaient difficiles à traiter, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus faciles à traiter. On a trouvé une petite pilule, une petite molécule qui permet de venir à bout de la maladie ou de maîtriser les symptômes, faire en sorte que la personne peut recouvrir une certaine qualité de vie. Dans le cas des maladies mentales, ça se pose encore plus parce que c'est effectivement pas évident, là, une psychose comme la différence entre la psychose et la névrose, c'est que la psychose, tu sors de la réalité, puis la névrose, tu restes dans la réalité. Donc, une bonne psychose comme une paranoïa, schizophrénie, on n'a pas vraiment trouvé de solution, bien qu'il y ait de la médication. Mais dans les cas de névrose, là, les dépressions, les stress post-traumatiques, les troubles anxieux, la médecine évolue quand même. On a trouvé des traitements. C'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, mais comment tu peux dire qu'une personne anxieuse peut avoir développé une maladie qui est l'anxiété sévère, un trouble anxieux généralisé, qui ne se guérira jamais et qui va permettre à la personne d'accéder à l'aide médicale à mourir? C'est un débat qui est assez compliqué parce que c'est comme des troubles suicidaires. Tu fais du suicidaire pendant bien des années, puis à un moment donné, tu ne l'es plus. Il y a des cas connus comme ça, là. Alors, c'est assez délicat pour le gouvernement de trancher la ligne, mais en tout cas, là où on est plus sûr, dans les troubles neurovégétatifs, là, ou dans les maladies du système nerveux central, là, comme la maladie d'Alzheimer, on sait très bien qu'il n'y en a pas de solution.
Ben, c'est parce
et dans
c'est...
ces cas-là, qu'on permette un consentement anticipé, c'est, à mon avis, tout à fait recevable.
L'Alzheimer, c'est une maladie qui est atroce, là. Tu oublies tes souvenirs. Tu veux mourir avec les souvenirs de tes enfants, les souvenirs de ta conjointe, ton conjoint, mais tu veux pas oublier ça. Tu veux pas mourir en sachant pas qui est-ce qui t'entoure, là. T'sais. Tu veux mourir en sachant que ta fille t'accompagne dans ton décès, que tes gars t'accompagnent dans ton décès. Tu veux pas mourir en voyant des individus qui sont devant toi, qui te regardent, puis tu sais pas c'est qui. C'est atroce comme finalité. Puis moi, je vais toujours féliciter Véronique Yvon, avec qui j'ai aucune affinité politique, mais je vous le dis, Véronique Yvon est dans mon comté, peu importe pour quel parti elle est, c'est sûr que je vote pour cet individu-là qui a été capable de rassembler tout le monde dans cette affaire-là, là, sur l'aide médicale à mourir.
Oui, c'est certain que si elle n'avait pas été là, ça aurait été plus compliqué, mais il y avait un représentant de chaque parti politique et Mme Yvon en a fait son cheval de bataille. On peut dire qu'elle a réussi à faire avancer beaucoup cette cause-là, tellement qu'on a une loi, on a des cas actuellement, puis il y a des centaines de Québécois qui se prévalent de l'aide médicale à mourir, puis c'est très bien. Mais c'est un débat qui se terminera jamais. Et il y a peut-être des gens qui ont déjà eu recours à l'aide médicale à mourir, puis qu'on aurait pu sauver aussi. Il y a toujours des cas, tu sais, des gens qui vont avoir accès à ça, puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va peut-être trouver un remède. On va peut-être trouver une façon de guérir, ou presque de guérir, un certain nombre de maladies ou de pathologies. On ne le sait pas actuellement, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à un moment donné? On peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que la médecine a à offrir à telle ou telle personne selon sa maladie? C'est ça la question qui se pose. C'est pas, on se demandera pas si dans 20 ans ou 30 ans, il n'y a pas un prix Nobel qui va sortir une petite molécule qui va permettre de guérir tous les cas d'Alzheimer. C'est bien possible que ça arrive. Mais dans l'immédiat, c'est là qu'il faut prendre une décision parce que la vie de la personne, elle est insupportable aujourd'hui, puis il n'y a pas de solution médicale. Alors, c'est dans l'immédiat qu'il faut analyser la situation et non pas en fonction de rêves médicaux ou d'éventuelles trouvailles dans la science qu'on n'a pas actuellement.
Maître Bellemare, avez-vous déjà eu dans vos, je sais pas moi, lors de vos plaidoiries, là, lorsque vous étiez en cour, avez-vous déjà eu des juges qui crient pendant la cour?
Qui rient?
Qui crient. Qui sont fâchés, qui perdent patience.
Ah non, des commentaires des fois qui sont plus ou moins agréables, oui. C'est drôle, en vieillissant, j'en ai de moins en moins. Parce que ça, on a ça quand on commence à pratiquer souvent les premières années. Des fois, on a l'impression que les juges nous prennent pas toujours au sérieux ou qu'ils sont un petit peu plus sévères face à notre comportement ou à notre manque de préparation, à notre manque d'expérience. Mais de façon générale, non, mais je sais pas, il y a un cas où ça s'est passé.
Oui, je vous parle de la juge abitibienne Denise Décoteau, ah oui. qui est encore une fois dans l'embarras. Elle a été blâmée pour une troisième fois par le Conseil de la magistrature du Québec en raison du fait qu'elle a des problèmes de comportement en cours. Madame a crié, elle perd patience. Puis là, il y a un comité d'enquête du Conseil de la magistrature qui reproche à cette juge-là de s'être emportée contre un témoin au point de vouloir forcer le témoin à révéler qu'il est un informateur de police, ce qui aurait probablement pu mettre sa vie en danger là, si elle avait réussi à le faire.
La mettre en danger. Il pourrait la mettre en danger encore aujourd'hui, parce que ça, le danger quand tu es un informateur de police puis que les gens qui ont des choses à se reprocher ou du crime organisé ou quoi que ce soit apprennent que tu es un informateur de police parce que ça devient public. Ça devient dans le dossier de cour et ils ont été coordonnés. Ta vie est en danger, pas juste pour une semaine, là, elle peut l'être pour les 25-30 prochaines années.
Mais, c'est grave. Là. Puis dans la cause, elle présidait une cause en Chambre de la jeunesse. C'est arrivé ça en 2019. Puis, il s'agissait de décider d'urgence les droits de visite d'une femme à son enfant devaient lui être retirés en raison de problèmes de consommation de drogue. Et on a appelé un individu à témoigner. Puis pendant la cause, il y a un ex-conjoint de la femme qui n'est pas le père de l'enfant qui s'est pointé. Et il a révélé que cette femme-là était dans un crack house. Et là, la juge Décoteau lui a dit « Mais comment t'as fait pour savoir que la femme était dans un crack house? » Et là, elle lui demande « Est-ce que vous êtes policier, monsieur? » Et l'homme répond « Non, je ne suis pas policier. » Et là, la juge presse l'individu, elle commence à s'impatienter, elle lui redemande encore. Il dit « Non, je sais que c'est un crack house, mais je ne suis pas policier. » Mais il a, comprenez-vous, qui a essayé de passer le message, là. Mais il a dit aussi qu'il n'avait pas appelé la police. Mais dans le fond, la juge aurait dû comprendre que l'individu essayait d'y envoyer un message comme quoi pose pas plus de questions, là. Je ne suis pas policier, mais je travaille pour la police, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les comportements déontologiques, hein. Cette juge-là est aux prises avec des plaintes. De nature déontologique. C'est important que les auditeurs comprennent que les juges ne peuvent pas, le Conseil de la magistrature, dans ce cas-ci, c'est le Conseil de la magistrature du Québec, hein, parce que le Conseil de la magistrature à Ottawa, pour les juges de nomination fédérale, cour d'appel, par exemple, cour supérieure, il y a les juges, il y a le Conseil de la magistrature du Québec pour les juges de la Cour du Québec. Alors, cette juge-là, en Abitibi, est une juge de la Cour du Québec. Donc, c'est le Conseil de la magistrature du Québec qui va se pencher là-dessus. Et les reproches qu'on peut faire à des juges de nomination du Québec, comme les juges de la Cour du Québec, c'est au niveau déontologique, c'est-à-dire des comportements déplacés, des commentaires grivois, des commentaires sur l'allure de la personne, crier, monter de l'impatience, manquer de respect face à une personne, que ce soit un avocat ou que ce soit un témoin ou que ce soit une personne dans l'assistance. Ça, c'est des troubles, des problèmes déontologiques. Ça va à la conduite, à la façon de se comporter. le fait que le juge dise oui ou non à une demande, ou le fait qu'il rende jugement et qu'il donne raison à monsieur plutôt qu'à madame, ça, c'est à l'intérieur de son pouvoir de juger. C'est pas de la déontologie. La déontologie, c'est un peu le décorum. C'est un peu ce qui touche l'attitude, le comportement devant le tribunal pendant qu'il siège. Ou en dehors du tribunal aussi, le juge Giroir, là, qui a été qui a perdu son statut de juge de la Cour supérieure. Oui, celui qui avait supposément eu des connexions avec de la drogue, là, dans une espèce de club vidéo, là, qu'on a vu sur une quantité de vidéos. Et le juge a perdu son travail, le juge Giroir. Alors, il y en a comme ça qui perdent leur travail parce qu'ils ont des problèmes, ils discréditent la profession, ils ont des comportements qui sont déplacés, que ce soit sur le banc pendant qu'ils siègent ou en dehors dans leur vie courante. Et pour les juges administratifs, comme le tribunal administratif du Québec ou le tribunal administratif du travail, bien, c'est le conseil de la justice administrative qui joue ce rôle-là si vous avez une plainte à loger contre un juge du tribunal administratif du Québec. Ça s'est déjà fait, il y a déjà eu des suspensions parce que le juge avait manqué de respect, avait bousculé le témoin. Il avait dit il avait crié, il avait eu un ton inapproprié, qui n'était pas serein, qui n'était pas digne des fonctions qu'il occupait pendant une audience. Il y a un juge qui a été suspendu pendant 2 semaines, il y a quelques années, au tribunal administratif du Québec, par le Conseil de la justice administrative. Donc, n'importe quel citoyen peut se servir de ce recours-là s'il y a un reproche déontologique à adresser à un juge.
Et le comité est conscient qu'un juge n'est pas un sphinx. Il peut, en certaines circonstances, avoir des réactions, des désapprobations qui paraissent. Par contre, cet état ne devrait jamais perdurer au point où le juge en perd le contrôle sur lui-même et la magistrate va devoir se faire imposer une sanction qui va être déterminée à une date ultérieure. Fait que là, elle aurait pas dû choquer, elle aurait pas dû forcer un informateur de police à dire qu'il est un informateur de police. Quand même assez particulier, Maître Bellemare. Hey, dernier petit point avec vous, Maître Bellemare. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. La voleuse de toast, infirmière qui était voleuse de toast, avez-vous vu passer ça?
Ouais, une toast au beurre de peanut, hein?
Elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. Elle avait mal au cœur.
C'est bien important de préciser qu'est-ce qu'il y avait sur la toast.
Ouais, elle avait eu mal au cœur, fait qu'elle s'est dit, tiens, m'a brûlé une toast au beurre de peanut. Puis ça s'est su en haut lieu. Et la gestionnaire a dit, OK, t'as mangé une toast au beurre de peanut. Suspension qui s'en vient. Bien, la bonne nouvelle, Maître Bellemare, c'est que la gestionnaire va être rencontrée, du moins celle qui a pris la décision de suspendre l'infirmière. Ça s'est passé, ça, au CHSLD Chevalier de Lévis, à Longueuil, le 2 octobre dernier. Et la jeune infirmière, ben, va tout simplement réintégrer son emploi et il n'aura pas de suspension.
Ça sent la vengeance, la mesquinerie, hein. Des fois, dans des milieux de travail, on dirait que c'est peut-être un petit peu plus dans les grandes entreprises ou dans le secteur public, là, ou parapublic, là, ce genre de niaiserie-là, là, tu sais, où il y a comme une petite guéguerre, là, qui s'installe. Parce que j'ai peine à croire qu'un gestionnaire doté de sa pleine intelligence puisse suspendre comme ça une infirmière parce qu'elle a mangé une toast. On sait peut-être pas tout non plus là, ce qui s'est vraiment passé. On connaît pas le comportement de l'infirmière en question. On sait pas si elle a des antécédents. On sait pas si c'est une personne qui avait déjà eu des problèmes de comportement dans son travail. Ça peut arriver, ça. Des fois, là, c'est la pointe du iceberg qu'on voit, là. Mais le iceberg, on le voit pas tout le temps dans un reportage dans les médias. Des fois, on nous donne juste un côté de la médaille. L'établissement n'a pas parlé, semble-t-il, sauf aujourd'hui pour dire qu'elle était réintégrée, là. Mais le syndicat a amené cette affaire-là sur la place publique. Et on ne sait pas tout, mais si ce qu'on sait, c'est complet, ben, effectivement, il y a un gestionnaire qui a manqué de jugement, surtout qu'il y a des bénéficiaires qui ont été privés de service pendant ce temps-là, là.
Effectivement, effectivement. Maître Bellemare, c'est toujours un plaisir de vous jaser. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous. Donc, pour les gens qui seraient intéressés par vos services, c'est assez facile, bellemareavocat.ca, pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST.
Absolument.
Salut, merci beaucoup.
Merci. Bonne semaine à tout le monde et à toi aussi, Yann.
Merci. Maître Marc Bellemare qui jase avec nous à chaque lundi. On va faire une courte pause. Vous avez des choses à nous dire? Ça vous tente de jaser? 88-971-1021. 88-971-1021, on vient.
La réussite scolaire de votre jeune vous préoccupe? Pour terminer ses études secondaires, c'est à l'école Boudreau que ça se passe. Nos enseignants dynamiques accompagnent chaque élève vers son objectif. Inscription gratuite en cours pour la session d'hiver. Visitez le site web de l'école Boudreau pour tous les détails.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes pour deux personnes. Une cuisse, une poitrine, tous les accompagnements, deux mini tourtières avec ketchup aux fruits et deux portions de la bûche des fêtes.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital. Jusqu'au 31 décembre, confiez la vente de votre maison à Équipe Laberge et un don de 500 $ sera offert à un organisme de votre choix. Certaines conditions s'appliquent. SimonLaberge.com.
Allez chercher le sapin. Décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau. Planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits. Ah, aller se faire vacciner!
Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec.
Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'impératif français.
Même si on passe l'hiver ici, ça veut pas dire qu'on est obligé d'avoir les pieds gelés. Fabriquées à Québec, les fameuses bottes saute-mouton sont conçues pour profiter de la saison froide. Amateurs de chaleur, choisissez la collection nordique doublée de peau de mouton. Belle, confortable et en cuir imperméable. Visitez saute-mouton.com.
Chez Cora, on sait très bien que pendant les fêtes, on est tous partagés entre la joie d'offrir et celle de recevoir. Avec Cora, pas besoin de choisir. Avec chaque carte cadeau de 25 $ que vous achetez, vous recevez une carte promo de 10 $. Offre disponible dans les restaurants Cora seulement.
L'application Boulevard 102.1. Un incontournable depuis au moins 4000 ans.
Je ne suis peut-être pas capable d'allumer un feu, mais j'ai tout ce qu'il me faut avec cette application. Et comme disait mon vieux père, roche et roule.
Appelez, textez, votez, réécoutez l'app Boulevard 102.1. Un incontournable. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
All right, c'est moins 4 degrés sur Québec, généralement nuageux pour ce soir. Avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 6. Pour ce qui est de demain, mardi 6 décembre, eh bien, en matinée, ce sera nuageux. Il y a des possibilités de pluie qui devraient débuter tard en après-midi demain. Il va y avoir de la glace, maximum de plus 5 degrés pour ce qui est de demain. En soirée, entre 10 et 15 mm annoncés, des températures stables après de plus 5 degrés. Donc demain, on va être dans le plus. Mercredi, toujours dans le plus, donc ce sera de la pluie tout au long de mercredi avec un maximum de 7. Jeudi, alternance de soleil et nuages, maximum de plus 1. Vendredi, ensoleillé, maximum de moins 3. Et pour ce qui est de samedi, dimanche, ben, la température va être adéquate parce que ça va être une alternance de soleil et nuages pour les deux journées de la fin de semaine. Maximum de moins 6 pour samedi, donc ça va être un peu froid. Et dimanche, ben, ça va être un maximum de moins 5 degrés. Le Canadien de Montréal qui poursuit son voyage dans l'ouest du pays ce soir, c'est à Vancouver. On va affronter les Canucks et le match est à 22h30. Serez-vous présent à cette heure-là? Il y en a qui oui, il y en a d'autres que non. Il y en a qui vont faire comme moi. Demain matin, lorsque je vais me réveiller, je vais regarder la game en version accélérée avec TVA Sport. On peut avoir ça. C'est intéressant. Défaite de 5-3 samedi contre les Oilers d'Edmonton. Pour ce qui est des remparts, ben, une belle fin de semaine parfaite pour les remparts de Québec en Abitibi. Deux victoires face aux Foreurs de Val-d'Or et une autre face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Les Foreurs seront d'ailleurs au centre Vidéotron, si je me trompe pas, c'est ce vendredi. NFL, victoire explosive de 54-19 des Cowboys de Dallas sur les Colts d'Indianapolis au football. D'hier soir, deux touchés chacun pour Tony Pollard et Michael Gallup. NFL, duel entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est ce soir au Monday Night Football, c'est à ne pas manquer. Sinon, soccer, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est terminé. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Dans quelques minutes, ce sera les podcasts. Puis nous, on se retrouve demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi. Avec peut-être Hello, peut-être Hello. Ou peut-être Audrey. Une des deux. Mais Hello file pas bien. Donc, on va espérer qu'elle aille mieux demain puis elle soit là. Sinon, ce sera Audrey. Salut! Bonne soirée. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson. Fait que ça part! Mario et Bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6 Desjardins. Faites-moi confiance, la gang. Venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins, la Ville de Québec et Boulevard 102.1.
Passe-temps 3000, l'incontournable pour vos achats du temps des fêtes. N'attendez pas. Trouvez le jouet parfait dès maintenant. Passe-temps 3000, rue Soumande, passe-temps3000.com.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1, la radio officielle de la musique live à Québec.
Yes, ton nom c'est?
Robert.
T'es le dernier aujourd'hui.
OK, on va y aller avec Harvest of Sorrow.
C'est sûr que c'est cette chanson-là que tu prends?
Oui.
Robert?
Oui?
T'avais la dernière chance, t'étais sur le bord du précipice.
Ouais, puis là, tu vas me pousser.
Non, man.
Il te donne un parachute doré, je pense.
Tu t'en vas voir Metallica deux fois au Stade olympique l'été prochain.
Yes, sir. Merci beaucoup.
Hey, c'est quoi les chances? Là, tu restes en ligne, tu t'en vas pas.
Bouge pas, inquiète-toi pas.
C'est malade. C'est donc bien débile. On dirait que c'est arrangé, j'en reviens juste pas. Chance.
C'est
comme au cinéma.
Oui, j'en reviens même pas moi-même. Tu vas avoir un show complet de Metallica, ce que personne n'a jamais eu de l'histoire du Stade olympique.
C'est vrai?
J'étais là au Stade.
Pour vrai, t'étais là à l'émeute? Oui. T'as-tu arraché un banc, quelque chose?
Non, j'étais parti. J'ai rien vu de ça.
Un homme sage.
T'as été prudent.
Boulevard 102, votre pusher d'étiquette.
Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'impératif français.
Chez Ralbok, on a eu une pas pire année 2022. On s'est refait une petite beauté, puis on a changé les dessins sur nos canettes. C'est beau en maudit. Tu montreras ça à tes matantes à Noël. S'ils sont comme les nôtres, ben, vont capoter ben raide. Puis on avait plus de temps libre au travers de tout ça, fait qu'on a ouvert la buvette Ralbok à l'Apocatière. Une méchante belle place, 20 lignes de bière, puis du gros fun en vue. On te conseille fortement de venir essayer ça. Puis ça reste que le temps des fêtes, ben, c'est fait pour fêter en gang. Puis nous autres, c'est ça qui nous fait triper dans la vie. Fait qu'on s'en craque une à ta santé, mon chum. Ralbok, c'est le fun, puis c'est bon.
Avec les virus respiratoires, il y a des gens qui tombent malades. Des gens qui tombent malades. Et des gens qui tombent très malades.
Certains tombent de plus haut que d'autres quand ils tombent malades. Porter un masque, c'est un geste simple qui agit comme filet de sécurité pour tous. Pour vous protéger et protéger les autres des virus qui circulent, mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Un message du gouvernement du Québec.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec l'Auto-Québec, est de retour du 3 au 12 février. Une programmation festive avec des spectacles musicaux d'Ariane Moffat, Corias, Borges et Matt Lang, défilés rythmés, glisse urbaine et le camping de bonhomme Vidéotron. Sans oublier la virée des sculptures Banque Scotia et le retour de la course en canot. Achetez votre effigie en pré-vente au coût de 15 $ plus taxes dans les couche-tards participants et au carnaval.qc.ca. Avec le Carnaval de Québec, en collaboration avec l'Auto-Québec, énerve-toi le pompon.
Pour vivre le temps des fêtes ensemble, le Musée de la civilisation vous invite à jouer, apprendre et découvrir. Retrouvez toutes les activités des fêtes du Musée de la civilisation au mcq.org.
Laura Secor, votre destination cadeau pour des fêtes réussies. Faites plaisir à tout le monde avec nos fameuses boîtes personnalisables et nos délicieux chocolats signature. Pour vos cadeaux des fêtes...
Toujours un classique.
Laura Secord.
À Boulevard 102.1 cet automne.
Boulevard 102.1.
On complète l'alignement de feu de Gravel dans le retour.
C'est malade,
ça? C'est sa grand-mère à
ça, c'est ma grand-mère.
C'est ta grand-mère.
Ah ouais,
c'est
ma grand-mère.
Et de Rage Against the Machine.
On n'arrêtait pas avant ce bout-là.
J'allais le mettre, là.
Faites-en pas, calme-toi le cowboy.
Avec un nouveau show, Marceau et Hello prennent la barre de Marceau le midi. Aussi, Mathieu Marcotte, Dan DeMann et Thomas Gauthier. Cet automne encore, et plus que jamais, Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Salut tout le monde, c'est Reg. Bienvenue à un autre épisode de mon podcast Reg La Planche Backstage. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je magasine sur Internet, genre comme Amazon, les reviews, c'est pas mal ça que je regarde pour me fier. Si c'est bon, puis apprécié, ou pas tant que ça. Puis c'est pas mal ça qui me guide dans mes choix d'achat. Tu sais, il n'y a rien qui parle comme les vrais clients qui ont vécu l'expérience. Puis, c'est pas mal pareil dans la vie en général. À Bas Extermination, des reviews, il y en a plus de 1000. Si tu veux pas te tromper, tu sais qui choisir. Plus de 1000 avis au Québec et plus de 4 ans comme choix du consommateur. Pour ma part, j'ai ma réponse. Il n'y en a pas de doute. À Bas Extermination, souvent imité, mais jamais